Bon après-midi à tous et à toutes. La température est plus une température de Pâques que de Noël aujourd'hui. Hein? Un beau temps de printemps. Nous nous réjouissons de ce beau temps de l'Avent où on s'arrête à nouveau. On a besoin de s'arrêter, on court toujours. Nos pensées vagabondent. On court après nos projets. On court après nos désirs, nos passions. On a tellement besoin de s'arrêter pour se rappeler les choses fondamentales de nos vies. Cet après-midi, nous allons faire une pause sur la question de l'Apocalypse. Nous allons y revenir le 21 janvier. J'ai eu certaines luttes à savoir quel texte j'allais vous exposer aujourd'hui, en vérité. J'ai pensé, bien sûr, à 2 Corinthiens 9,15, qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » On l'appellera « admirable », on l'appellera « merveilleux », c'est le même mot. Hein? Mais je ne me suis pas détourné de cela, mais ce n'est pas à cela que je me suis arrêté. J'ai pensé, bien sûr, à Michée 5, 1 à 3, que nous avons lu en début de culte, où il nous est promis un très beau cadeau divin, la venue d'un sauveur. Et c'est un beau cadeau. C'est un cadeau enveloppé de prophéties. C'est un cadeau enveloppé d'histoire. Et c'est un cadeau enveloppé de mystère. C'est mes 3 points pour l'année prochaine. Là, si Dieu nous prête vie, c'est un beau message qu'on retrouve également. Tous les messages sont beaux, bien sûr. Tous les messages de Noël le sont. D'une manière particulière, puisqu'il nous parle de cette doctrine si fondamentale de la rédemption. Tout ceci étant dit, il m'a paru bon finalement de revenir, de revisiter un texte que j'ai prêché déjà dans Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Nous allons revisiter le texte de la naissance de Jésus, certainement le récit le plus connu de toute l'histoire de l'Écriture sainte. Alors, vous pouvez tourner avec moi si vous voulez bien, même si c'est un texte avec lequel nous sommes familiers, nous allons quand même prendre le temps de le relire. Vous savez que lorsque Jésus est né, ça n'allait pas bien du tout à Bethléem, ça n'allait pas bien dans la Judée, ça n'allait pas bien sur la terre. On célèbre à nouveau la venue du Christ sur la terre et ça ne va pas mieux sur la terre. Ça n'ira jamais mieux sur la terre. Fort heureusement, nous sommes partie prenante d'une nouvelle société où nous avons toutes les promesses voulues et nous savons que d'ores et déjà, nous avons un avant-goût à quel point, avec le Christ, il mène les choses à bon port. Donc, Luc chapitre 2, versets 1 à 7. N'oublions pas de garder en prière quelques personnes d'entre nous qui sont malades. Je pense que Suzanne n'est pas en très bonne santé aujourd'hui, non plus que notre sœur Lynn Perrault. Pensons également, puisqu'on y est, aux élections qui auront cours bientôt au Congo-Kinshasa. C'est une élection extrêmement importante qui va décider s'il y aura plus de violence ou si on va finalement trouver un régime un peu plus paisible. À Québec, on subventionne déjà un orphelinat là-bas avec le pasteur Rokoukouyé qui est responsable et toute son équipe. Et prions pour ce pays, pour le Congo. Qui va avoir ses élections bientôt. On sait que c'est Dieu qui établit les gouvernements et on sait que là aussi nous sommes partie prenante par nos prières hein, et par nos intercessions. Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Ô Dieu Saint, merci pour cette parole. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Que le Seigneur bénisse cette parole qui nous est si familière et qui nous parle encore et encore à chaque moment. Tout autour de ce texte-là, de Luc 2, on se balade véritablement dans le surnaturel, dans tout ce qu'on peut appeler de glorieux. Il semble qu'il n'y ait rien là de commun qui se produise autour de ce texte-là. D'abord, nous avons la visite de l'ange Gabriel à Marie. C'est toute une gloire que de lire cette circonstance-là, hein, l'ange qui se présente à Marie pour lui faire l'annonce par excellence. Nous avons ensuite l'apparition d'un ange à Zacharie. Et nous avons le merveilleux cantique de Marie où on retrouve un nombre faramineux de propos de l'Ancien Testament, ce qui veut dire qu'elle était d'abord bien fondée et bien inspirée également pour nous donner ce beau cantique-là. Vient ensuite la naissance de Jean-Baptiste, le cantique de Zacharie, et viendront ensuite, et ce ne sont pas les moindres, les bergers et les mages. Tout est dans le surnaturel. Hein, on voltige, on lévite, littéralement. Mais lorsqu'on arrive au texte de la naissance de Jésus, j'ai presque envie de dire que ça nous apparaît être un atterrissage un peu brutal. C'est un texte d'une simplicité absolument déconcertante. Nous sommes devant un événement, somme toute banal, un couple de paysans dont la fiancée accouche dans une étable. Et dans une nuit comme toutes les autres nuits en Israël, sans fanfare, sans célébration, un enfant nous est né. Rien de particulier, même pas dans une maison, même pas dans un hôpital, finalement, dans une crèche. Mais voici où la banalité s'arrête. C'était une nuit comme toutes les autres, mais ce n'était pas un enfant comme les autres. Et c'est la grande remise en question. Dans ce texte-là, que nous reverrons aujourd'hui, nous sommes appelés à voir qu'un choix nous est présenté. On ne peut pas demeurer dans le neutre. C'est un ou l'autre. Deux possibilités et un choix nous est présenté. Deux différents modèles de vie. Deux régimes sous l'un desquels nous sommes tous appelés à vivre. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que j'ai trois points. C'est effectivement ce que j'ai. Et le premier va comme suit. La royauté de César Auguste, les versets 1 à 3. Vous aurez peut-être noté que Luc trace un contraste entre deux rois dans ce texte-là. Au verset 1, nous avons la royauté de César Auguste. Et au verset 7, nous avons celle de Jésus qui est le Christ. Elle transcende beaucoup moins que le verset 1 dans le texte. Hein? Jésus qui est là tout bébé, qui n'a même pas encore de nom, soit dit en passant. Au verset 1 à 3, donc, nous lisons, « En ce temps-là apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. » Lorsque César Auguste publie un décret royal, la terre entière s'y soumet. C'est ce qui nous est dit ici. Hein? Tout ce dont on avait besoin, c'était un ordre de l'empereur pour que les gens de tous les coins, enfin, lorsqu'on parle de la terre, on parle bien sûr de l'oïcoumène, on parle de la terre habitée de l'époque, on parle somme toute de ce qui composait tout l'Empire romain de l'époque. Hein? Alors les gens de tous les coins de l'Empire romain, bien sûr qu'il n'y avait personne de Québec là, hein, se présentent pour se faire inscrire. Parfois certains vivaient à des milliers de kilomètres de distance, ils viennent ainsi s'enregistrer pour un but bien précis, les taxes. On vous dit quelque chose? Les taxations. On parle ici de l'empereur Octavien. César Auguste, ce n'est pas des noms, ça, ce sont des titres. Hein? Alors, on parle de l'empereur Octavien qui a été le premier César à s'appeler, à prendre le titre de César et à prendre le titre d'Auguste. Pas étouffé par l'humilité, là. Hein? Oh, l'Auguste César. Il avait établi une ère de paix extraordinaire. Il faut donner à César ce qui revient à César, le terme s'applique. Il avait établi une ère de paix extraordinaire qu'on appelait la Pax Romana. Fait du bien d'avoir la paix sur la planète, vous savez, et c'était vraiment le cas à l'époque, pendant un certain temps. Dans tout l'Empire, on commençait à parler de plus en plus d'un âge d'or sous son règne. On a même construit un hôtel qu'on appelait le Ara Pacis Augusti, le grand hôtel de la paix d'Auguste. Hein, on voulait vraiment apprécier le fait qu'on vivait dans la paix et on voulait célébrer son règne. Même dans certaines cités, vous savez, d'Asie mineure, on avait commencé à dater le nouvel an à partir de la date de naissance d'Auguste, c'est-à-dire le 23 septembre. Bon. Sa puissance fut telle qu'il a été considéré par plusieurs comme divin. On retrouve d'ailleurs à Halicarnasse une inscription qui salue Octavien comme le Curios César. César est Seigneur. Comme le sauveur du monde entier. Curios voulait dire cela, en effet. Curios César, et c'est le nom, le titre qu'on lui attribuait. Il était donc l'incarnation du pouvoir politique. Il incarnait la puissance. À l'opposé, à la fin du passage, au verset 7, nous avons un bébé sans nom, qui plus est. On verra son nom uniquement à partir du verset 21, un peu plus loin. Et il est simplement présenté comme le premier-né de Marie. Lorsqu'on se rappelle l'annonce de Gabriel à Marie, nos attentes sont extrêmement élevées. On s'attend à voir un personnage, un extraterrestre, n'est-ce pas, qui va fondre le ciel, qui va faire descendre les étoiles, qui va changer la lune de couleur, hein, avec toutes les épithètes qu'avait employées l'archange et l'ange dans l'annonce à Marie. Nos attentes sont extrêmement élevées. Pourtant, quels étaient les propos de l'ange concernant l'identité de l'enfant? Chapitre 1, verset 32-33, il dit « Il sera grand ». Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. On n'a pas entendu une annonce comme celle-là très, très souvent dans l'histoire du monde. Hein? Donc, on se prépare à voir arriver quelqu'un d'assez particulier. Et on s'attend à ce que ça vienne avec tout le décorum qui devrait normalement l'accompagner. C'est dire que le royaume de cet enfant-là qui devait naître, ce royaume allait surpasser de beaucoup celui de César Auguste. Et lorsqu'on entend le cantique de Marie, le Magnificat, chapitre 1, verset 46 à 56, nos attentes prennent encore davantage d'altitude. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Quel contraste avec le récit que nous avons sous les yeux. Était-ce un canular, une fausse alerte, un pétard mouillé, comme on dit au Québec, une belle histoire qui se termine en queue de poisson? Le moins qu'on puisse dire à sa naissance, c'est qu'on espérait s'attendre d'y voir quelques signes royaux, quelques indications de noblesse, un emblème de majesté. Il y a quelques années, 2, 3, 4, ma mémoire ne me sert pas toujours très, très correctement, j'ai reçu un coup de téléphone après une de mes émissions à CFOI de la part d'un annonceur de radio qui était impressionné du fait, parce qu'il savait que j'avais été un ex-annonceur de radio, que j'étais dans la foi et on avait eu une très, très bonne rencontre. Il voulait me rencontrer, il était très... Lui-même avait un certain intérêt spirituel et il voulait me rencontrer, un très gentil monsieur, soit dit en passant. Et on s'était vus, on s'était rencontrés, on avait causé et je l'avais invité à l'église. Et il était venu à l'église. Et bien sûr, ses attentes étaient autres. Et là, je ne porte absolument aucun jugement sur l'état de son âme. Je ne porte aucun jugement sur l'homme, là. Mais son atterrissage a été cruel. Il a vraiment fait un crash, si vous me passez l'expression. Lorsqu'il a vu l'humilité, la simplicité de notre Église, aucun vitrail, aucune statue, sinon peut-être deux, trois personnes dans les bancs qui ne bougeaient pas. Mais en général, vous voyez, ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. On ne l'a pas revu. Bon, que Dieu le bénisse, parce que je ne sais pas comment il en est dans sa quête, mais l'expérience est intéressante. Mais je me suis dit, c'est précisément l'expérience des êtres humains que nous sommes. On cherche quelque chose qui va venir chercher nos émotions, right? Quelque chose qui va nous... Les couronnes miracles, là, c'était ça qu'ils cherchaient. Ils cherchaient des émotions. Il fallait toujours un miracle un peu plus grand. On avait une l'épouse de Daniel Bégin, Chantal, que vous avez connue, dit toujours, les gens vivent pour la récréation. On est prêt à aller en classe dans la mesure où il y a une récréation, vous voyez. Mais l'humanité vit à peu près pour la récréation. Donnez-nous des miracles pour nous encourager, puis toujours des plus grands, parce qu'on s'habitue aux petits, comme si un miracle était petit. Mais c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la religion. On a besoin de l'huile de Saint-Joseph. Quand je vais être petit, l'huile de Saint-Joseph, ça nous guérissait. De l'eau de Sainte-Anne, je ne sais pas trop quoi, là, sortez ce que vous voulez. Hein? On a besoin de quelque chose qui nous fait transcender un peu. Et c'est le dilemme de l'histoire de Noël, vous savez. L'histoire auquel nous sommes tous confrontés, c'est le dilemme de l'Évangile. Quel roi voulons-nous? Dans quel royaume voulons-nous vivre? À quel genre de vie aspire-t-on? Il y a le modèle du monde, l'idéal mondain, si bien incarné d'ailleurs par Auguste César. C'est le rêve américain, hein? Avec sa puissance, sa richesse, sa gloire. C'est le pinacle du succès et de la notoriété humaine. Ah! À l'image de César. J'ai réussi ma vie. En contrepartie, il y a le royaume de Dieu qui se présente sans manifestation de gloire, sans expression de puissance. Il se présente dans un bébé qui naît. Non seulement c'est un bébé qui naît, mais c'est un bébé qui naît ignoré dans une crèche de caravane-tirail. Ça vole pas haut, ça. Tu faisais quoi, caravane-tirail? On figure qu'il y en avait à peu près un à chaque 100 km dans l'Empire romain. Alors, il y avait les chambres tout autour. Et au centre, au milieu, il y avait, passez-moi l'expression, le stationnement. Là, c'est là où on mettait les animaux. Et à chaque extrémité, il y avait une crèche, il y avait une mangeoire. Bien, c'est là que Marie a accouché. Et c'est dans une des mangeoires qu'effectivement, elle a couché, elle a fait reposer le Seigneur Jésus. Voilà donc les deux modèles. Deux rois, deux royaumes, deux styles de vie. Pourquoi quelqu'un choisirait-il un bébé Jésus, au lieu de choisir César Auguste? À première vue, sans même y réfléchir, on choisit les yeux fermés César Auguste. On aime bien les bébés, mais pour régir une vie, on repassera, hein, avec les bébés. Mais attention, notre examen du texte d'aujourd'hui nous amène à saisir qui est ce roi Jésus et nous conduit à faire un choix éclairé. Un choix éclairé. Nous aspirons à être César Auguste, mais l'Évangile nous enseigne autrement. L'Évangile nous enseigne qu'au lieu de chercher à être roi, à être adoré, à être glorieux, à être puissant, à être à succès, nous devons fléchir le genou et adorer un roi bien différent. Et ça m'amène à mon deuxième point, la prophétie biblique, les versets 4 et 5. Le recensement romain exigeait que chaque homme en Israël retourne à son lieu de naissance. Alors, chapitre 2, versets 4 et 5. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Joseph, donc, le père terrestre de Jésus, hein, passez-moi l'expression, vient de la lignée royale de David. Et nous voyons donc ici les créances de l'enfant, si on peut s'exprimer de la sorte. Hein. Il fallait impérativement, au fin d'accomplissement de la prophétie du salut, que Jésus soit un descendant du roi David. Et la généalogie de Joseph explique pourquoi il devait amener sa famille à Bethléem. Bethléem, c'était la cité de David. Et ce n'est pas une décision que Joseph a prise. C'est une décision que Dieu avait prise de l'amener là, même par le biais de César Auguste. Alors, il était donc de la ville, de la cité de David, de la ville natale de l'ancien roi. Et en conséquence, c'était là le lieu où Joseph devait impérativement s'enregistrer. Il s'agissait d'une autre partie de la vieille promesse que le Sauveur devait naître à Bethléem. On vient de lire Michée chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Éphrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, l'une des qualifications prophétiques du Sauveur, c'était qu'il lui fallait naître à Bethléem. Le récit sombre un peu dans l'ironie. Il y a une certaine dose d'ironie ici. Alors que Dieu utilise précisément Octavien, il utilise César dans la réalisation de son plan. Rappelons-nous qu'Octavien, l'orgueilleux, devient malgré lui le serviteur du plan divin. Lui qui se revendiquait d'être le king de la planète, hein, le roi de la terre, il devient le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Le but de l'empereur dans cette entreprise de recensement-là, c'était bien sûr de contrôler les différentes parties de son empire. Mais voilà qu'ironiquement, dans le processus, il fait que Jésus, fils de Marie, fils de David, fils de Dieu, destiné à s'asseoir sur le trône d'Israël et du monde, vient naître dans la cité de David, son ancêtre royal, tel que prédit et promis par l'Écriture sainte. Quand même intéressant de voir encore une fois une belle perspective de la souveraine grâce de Dieu, qui se glorifie parmi les bons, qui se glorifie parmi les méchants, parmi les humbles comme parmi les orgueilleux. Ce qui a priori donc se présentait comme une grande démonstration de puissance, et ça me rappelle un peu la prière de notre frère Luc tantôt. Ce qui a priori se présentait comme une grande démonstration de puissance de la part de César s'avère en réalité une manifestation de la suprématie de la souveraineté divine. Même le décret de César faisait partie du plan divin. Dieu règne sur toute chose pour sa plus grande gloire. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait citer. Rappelons-nous la crucifixion. Imaginez que vous êtes parmi les disciples du Christ, les disciples immédiats, les apôtres. Et là, vous voyez Jésus pendu au bois, en train d'être moqué, en train de mourir, en train de suffoquer. Hein? Quelle devait être leur intériorité? Quelles devaient être leurs émotions, puisqu'on aime beaucoup parler des émotions par les temps qui courent? Comment devaient-ils se sentir là-dedans? Lorsqu'ils l'ont vu mort, lorsqu'ils l'ont vu aller au tombeau, ça nous rappelle un peu les disciples d'Emmaüs qui s'en vont en déprime, la tête baissée et qui parle de qui il était, de qui il était. Crucifixion. Ça ressemblait à la défaite par excellence. Pourtant, c'était la grande victoire par excellence que la crucifixion. La parole nous en dit quand même pas mal long là-dessus. Hein. Il nous rappelle Actes chapitre 2, verset 23, « Cet homme livré selon le dessein de Dieu. » Selon le dessein de Dieu et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça n'avait d'aucune manière échappé au Dieu souverain. Il y a tellement de choses qui semblent échapper à Dieu, à nos propres yeux. Rien n'échappe à notre Dieu. Pas le moindre détail. Ce qui nous apparaît le plus bizarre, le plus inexplicable, le plus envisageable, n'échappe pas non plus au décret divin. On pense à l'histoire de Joseph, on est en train de la voir actuellement le mercredi, là, dans nos études du mercredi. On pense à l'histoire de Joseph. Pensez-vous qu'en cours de route, au cours des 20 ans, là, des 13 ans plutôt de sa balade, qu'il n'y a pas eu une pensée à un bon moment donné en disant « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui échappe à Dieu ici? Hein? » On a beau être saint, on a beau être pieux, on a beau aimer le Seigneur, mais quand les épreuves se répètent comme des graines de chapelet, vous savez, on se pose des questions, est-ce que Dieu est dans le business? On pense à Mardoché, Esther et Mardoché. Quel beau livre, hein? Où Dieu n'est pas, le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais il est partout, 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 le nom de Dieu là-dedans. On voit comment Dieu, dans sa grande bonté, fait en sorte que Aman prépare le gibet où il allait lui-même être pendu. On en rit un peu, mais c'est parce que c'est un peu pathétique. Hein? Il s'apprêtait le matin même à pendre Mardoché, et voilà que c'est lui qui va aller terminer là, somme toute. Et ce n'est pas tout, on a plein d'exemples comme ceux-là, tout au long de la parole de Dieu. Et ce qui est important, on ne peut pas lire ça d'une façon détachée. On n'est pas en train de lire un livre d'histoire. On est en train de lire ce à quoi notre vie fait partie. Nous sommes partie prenante de l'histoire qu'on lit. C'est pas seulement vrai pour les grands événements de l'histoire, toutes ces manifestations providentielles de Dieu. C'est pas seulement vrai pour les histoires, les grands événements de l'histoire du salut, mais c'est vrai aussi pour les circonstances ordinaires de notre quotidien. Il n'y a aucun événement qui échappe à notre Dieu. Et il y a des événements qui nous sont extrêmement douloureux. On traverse des périodes où on se dit, « Seigneur, ta parole nous dit qu'on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces. » Ici, ma foi fait défaut un peu parce que j'ai vraiment l'impression que ça dépasse mes forces. Hein? On vit des circonstances comme celle-là. Sachons-le, Dieu du bon bord, c'est lui qui a raison. Rien n'échappe à notre Dieu. Il sait toujours pourquoi il fait les choses, pourquoi non seulement il les permet, mais pourquoi ils figurent dans son décret souverain. Dieu œuvre selon sa volonté, il s'assure de manifester ultimement sa gloire, souvent de fois, en dépit des choses que nous faisons. S'il manifestait sa gloire uniquement en raison des choses qu'on fait, il y aurait la gloire plutôt en rase-motte. Hein? Gloire à Dieu que même dans nos erreurs, dans nos boubous, Dieu sait comment venir chercher sa gloire dans tout cela. Et ça va être encore vrai en 2024, avec toutes les incertitudes et les craintes qui nous entourent. Luc donc fait mention du lieu de naissance de Jésus de façon à nous démontrer qu'il est bien le Sauveur promis, qu'il répond aux révélations prophétiques faites à son sujet. Tu sais, le fait de savoir comment Dieu opère, il faut constamment se le rappeler aussi, pour ne pas tomber dans le découragement, pour ne pas devenir blasé, pour ne pas perdre la motivation, pour garder le cap, pour ne pas ralentir le pas, pour continuer de regarder au bon endroit. On a besoin de se laisser rappeler. Là, on parle de Mardoché, on parle de... Hein, peut-être que si le Seigneur n'est pas revenu, dans 200 ans, qu'on parlera de nous, de notre propre histoire, comment Dieu est intervenu de manière extraordinaire, providentiellement, pour venir aussi à notre secours, pour venir aussi chercher sa gloire dans les circonstances difficiles que nous avons traversées. Et mon troisième point, au verset 6 et 7... L'arrivée du roi souverain. Alors que Luc procède à la rédaction du récit de la nativité, du vrai récit de la nativité, nous voyons donc le contraste entre la puissance mondaine de César et l'apparente faiblesse de bébé Jésus. Mais il s'y dégage un autre contraste, celui de l'accueil que Jésus méritait et celui qu'en réalité il a reçu. Malgré qu'il était fils de David, le vrai roi d'Israël, on ne peut certainement pas dire qu'il ait reçu une bienvenue royale. Bon, on n'accusera pas l'aubergiste, hein? Il n'y avait pas de place dans l'auberge, on comprend bien, là. On n'accuse pas l'aubergiste. Mais ça en dit quand même long sur l'humiliation de Jésus. Ça nous en dit long, déjà, sur ce que sera sa vie terrestre, déjà à l'incarnation, au début de l'incarnation. Et ça nous interpelle, chacun de nous, à l'humilité. Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 9. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Pour mieux comprendre l'humiliation de Jésus, on doit se rappeler, j'hésite toujours à dire qui il était et qui il est. Qui il est, voilà. Luc le décrit comme le fils premier de Marie, chapitre 2, verset 6. Mais il était infiniment plus que cela. Hein? Par la puissance du Saint-Esprit, l'enfant dans le sein de la Vierge était le véritable Fils de Dieu. Le premier-né de toute la création, sur la plume de Paul, Colossiens chapitre 1, verset 15. Le vrai Dieu né du vrai Dieu, comme le dit notre confession de foi. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, le roi des cieux, le seigneur des seigneurs, et on pourrait continuer encore toute la liste des titres, n'est-ce pas? De par sa nature divine, il possédait pleinement la perfection de l'être trine, l'être divin trine. Ce bébé, né dans la petite ville de Bethléem, c'était le Fils de Dieu, omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout, voilà, omniscient, hein, qui a toute la science, tout puissant et tout glorieux. César, inconsciemment, parce que l'œuvre de Dieu échappe au radar des autorités. Elle échappe à Hérode, elle échappe à César, on le voit partout. Hein? J'aime beaucoup, moi, le début du livre de Daniel, où il nous est rapporté qu'à un moment donné, dans sa belle politique expansionniste, selon les journalistes, n'est-ce pas, Nébuchadnezzar décide qu'il va envahir Jérusalem. Mais la Bible ajoute, et Dieu le livre entre ses mains. Vous voyez? Nous, on ne voit que ce qui est. On ne voit que ce qui est apparent au royaume du monde. Mais lorsqu'on appartient au royaume de Dieu, nos yeux sont plus élevés. Notre regard va beaucoup plus haut. Et on voit véritablement les circonstances derrière. On voit l'amorce de tout ce qui se produit. Alors encore ici, César est inconscient que Dieu est derrière l'affaire. Il est convaincu qu'il mène sa business, n'est-ce pas, selon sa volonté octavienne, supposément souveraine. Il venait de lancer une chaîne d'événements qui allait changer le monde, parce que parmi les millions de gens qui allaient s'enregistrer, puis il y en avait des millions, on retrouvait effectivement Joseph et Marie. Vous êtes au centre d'achat, c'est plein de monde, et il y a Joseph et Marie. Est-ce qu'il vous frappe? Un pauvre bonhomme, petite femme, hein, avec une adolescente paysanne enceinte. Il y avait des millions de gens qui venaient s'enregistrer. Parmi ceux-là, il y avait Joseph et Marie. Comment Dieu œuvre? C'est tellement pas à vue humaine, à grands coups de poing. C'est tellement pas par une puissance physique humaine. Ça va tellement au-delà de cela. Parce que c'est ce décret qui amène Joseph et Marie en obéissance à la loi, a fait route vers Bethléem. On sait que prophétiquement, c'est là qu'il devait naître lors de la visite des mages à Jérusalem. Hein? Hérode, qui apprend la nouvelle de cette naissance-là, devient très tendu, très nerveux. Il demande aux scribes de s'enquérir de l'endroit où devait naître le Messie, et on connaît la réponse en Matthieu 2, 4 à 6. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, les séfarim, hein? Les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître et lui dirent « À Bethléem en Judée ». Car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Ben, c'est ainsi qu'un modeste charpentier et sa jeune épouse, sa jeune fiancée enceinte, perdue dans la foule, allaient donner naissance à un fils qui devait régner sur le monde. Nous ne sommes plus dans le Kyrios César, nous sommes dans le Kyrios Christos. Christ est Seigneur, Christ est Sauveur, Christ règne. Dieu prenait ainsi tous les pions de César pour les mettre en échec et mat, afin que le vrai Sauveur se lève seul comme roi des rois. Le bébé que Marie portait, c'était pas un César, hein? C'était pas un homme qui voulait se faire Dieu, mais bien le vrai Dieu qui venait se faire homme. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est fait homme. Parce que l'homme a cette fâcheuse maladie de vouloir se faire Dieu, oui. De vouloir diriger sa propre vie. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour Jésus, même encore aujourd'hui, parce que l'homme veut prendre toute la place. Hein? Ce n'est pas nos activités, ce n'est pas nos passions, c'est nous qui voulons avoir tout l'espace, toute la place, et ne pas laisser à Jésus, dans la crèche Jésus. On le renvoie à chaque fois, n'est-ce pas, dans l'étable et dans la crèche. Quel genre d'accueil aurait-il mérité? Il aurait mérité que chaque personne de chaque nation vienne l'adorer. Il aurait mérité que chaque créature dans tout l'univers, depuis le lion le plus féroce jusqu'à l'insecte le plus insignifiant, vienne à son berceau avec des louanges. Mais il s'est volontairement humilié. Tant et tellement que nous le retrouvons dans une situation d'hébergement pitoyable. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et voilà bien une autre ironie de l'incarnation. Lorsque le Fils de Dieu vient sur la terre, le Créateur de tout l'univers ne peut même pas avoir une chambre. Au verset 7, hein, dans le caravansérail, dans la crèche. Le Christ commence sa vie comme un sans-abri. Et ce sera caractéristique de sa vie terrestre. Luc chapitre 9, verset 58 nous dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Donc, après un long voyage, après un voyage certainement hyper épuisant pour Joseph et Marie, Marie enceinte qui plus est, voilà qu'elle accouche dans cet environnement sans confort, un environnement odoriférant dans l'absence totale de service. Bref, tout ce que nous savons de la naissance de Jésus pointe vers l'obscurité, l'indignité, la souffrance et le rejet. L'un des grands mystères de notre univers, le Fils de Dieu devint homme et passa sa première nuit dans une étable. C'est un grand mystère. Dans Apocalypse 5, comme vous savez, il nous est parlé du lion de la tribu de Juda, pour faire référence à Jésus. Je vous lis les versets 5 et 6. « L'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les sept sceaux. » Ah ben là, voilà, on est en bonne compagnie. Nous avons un lion de notre bord, et bon, le lion de la tribu de Juda a vaincu, nous est-il dit, pour ouvrir les sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau. L'agneau s'est fait agneau pour venir nous racheter. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le lion se fait agneau pour notre salut dans sa victoire. C'est la dynamique du combat chrétien. C'est la dynamique de la guerre incessante que nous mène l'ennemi de nos âmes. Non pas en se faisant lion que le Christ a triomphé, mais en se faisant agneau. Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi est-ce que Jésus est né dans de telles conditions? Qu'est-ce que ça nous dit sur le salut et sur la vie chrétienne? Premièrement, la naissance du Christ met en lumière la dépravation, notre péché. Il y avait bien sûr quelques Israélites pieux qui attendaient le Messie, sans aucun doute, comme nous le verrons plus loin au fil des chapitres qui suivent. Cependant, la plupart étaient tellement absorbés par leurs soucis terrestres qu'ils ignoraient totalement que Dieu était en train de faire dans le monde. Jean chapitre 1, verset 9 à 11, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Jésus a vécu le rejet tout au long de son ministère terrestre. Sa propre famille le croyait hors sens. Les gens attirés par ses miracles finirent par l'abandonner. C'est toujours le cas. Les chercheurs de miracles vont en trouver un, vont essayer d'en trouver un autre qui en fait des plus gros, quelque chose d'autre. Les chefs religieux le méprisaient. Pire encore, il fut trahi par l'un de ses proches, un de ses très proches. Et les autres s'enfuirent lors de son arrestation, sans parler du reniement de ses apôtres. Bethléem, ce n'était que le début, ce n'était que l'annonce de ce que serait la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est venu parmi les pécheurs qui n'ont pas manqué de manifester leurs péchés. Pas de place pour lui. Écoutez, 2000 ans plus tard, les choses ont guère changé. Quelle place Jésus occupe-t-il dans ma vie? Quelle place Jésus occupe-t-il dans nos cœurs? C'est une question qu'on doit constamment se poser. Et il y en a des choses qu'on fait entrer dans notre cœur. On est meublé, hein, à souhait. Et c'est un peu normal. Si on n'est pas du monde, on est encore dedans, et on a nos responsabilités, on a nos luttes, on a nos combats. Il y a des choses desquelles on doit s'acquitter. Alors, on comprend très bien. Mais la place du Christ dans ma vie, c'est important qu'il occupe une place. Combien de fois entend-on des gens dire, lorsque nous leur parlons des choses de la foi, « Oh, moi, je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de religion. Je suis beaucoup trop occupé. » Ou encore, je ne suis pas un religieux. Je vous ai déjà fait dire ça, je ne suis pas un religieux. Nous non plus, on n'est pas des religieux, on est des chrétiens. Ils vont nous dire, j'ai ma propre spiritualité, j'ai ma religion. Ce n'est pas pour moi. Pas de place pour lui, et si on a une place, c'est derrière, dans l'étable. Mais savez-vous quoi? Jésus est venu pour sauver des gens qui n'avaient pas de place pour lui. Il n'y avait pas plus de place dans nos vies qu'il y en a dans les gens du monde actuellement. Il est venu effectivement pour sauver des gens qui n'avaient pas de place pour lui. Il est venu vivre la plénitude du rejet. Et le rejet, c'est l'offense ultime à Dieu. Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Plus de place pour Jésus dans le cœur de Dieu pendant la crucifixion. Et après avoir expérimenté dans sa chair ce rejet du peuple, il est allé mourir à la croix, il est allé expérimenter, comme je viens de le dire, le rejet de Dieu. Et à tous ceux, à toutes celles qui lui font une place, qui lui font la première place dans leur vie, dans leur cœur, il accorde le pardon des péchés, la réconciliation avec le Père et la vie éternelle. Vous savez quoi? Le vol, l'adultère, les blasphèmes, la drogue, l'homosexualité, l'étranger, l'euthanasie, l'avortement, continuer le catalogue, etc., sont des péchés qui ne sont que des manifestations du péché. On met souvent l'accent sur les péchés qui nous, pas seulement l'expression, qui nous écœurent le plus. Mais tous les péchés écœurent Dieu. Ils lui font lever le cœur. Ce sont des manifestations de notre rejet de Dieu du fait que nous ne lui avons pas fait de place. Quelle invitation ce texte a-t-il pour nous cet après-midi? Bien sûr, faire place à Jésus. Chaque fois que nous laissons quelque chose prendre la place que Jésus devrait occuper, on le renvoie à l'étable. On le renvoie à la mangeoire. Et cette pensée doit impérativement occuper notre esprit, alors que nous en sommes encore, nous-mêmes ici, là, à la genèse de l'implantation de cette Église. Quelle sera la place de Jésus? Est-ce que l'Église réformée baptiste de la Trinité va n'être qu'un endroit où on va au culte le dimanche? Ou si nous allons faire tout en notre pouvoir pour former une communauté, une société chrétienne, où Jésus occupe toute la place. Et maintenant parlant, vous savez, c'est dérangeant de faire de la place pour Jésus. C'est toujours dérangeant de faire de la place aux autres. Il arrive de la visite, on est très content, mais ça dérange, hein, ça prend de la place. Surtout quand il reste 3 semaines. Ou 1 mois. Il arrive quelqu'un d'autre. On se marie, ça prend de la place. Un conjoint puis une conjointe, hein? Jésus prend toute la place. C'est Jésus. Sauf que il n'est pas fatigant, lui. On ne veut pas qu'il s'en aille, lui. Quand il vient habiter dans notre cœur, il vient habiter chez lui. Alléluia. Nous sommes son temple. Ça change complètement la mouvance, vous voyez. Donc, lorsqu'on fait de la place, vous voyez, ça peut être... Lorsque la maison est pleine et qu'on veut entrer de nouveaux meubles, il faut sortir les anciens. Sanctification. Faire place à Jésus veut dire remettre de l'ordre dans nos priorités. Ça veut dire d'abord et avant tout qu'il occupe le tréfonds de mon cœur. C'est du cœur que jaillit tout mon modus vivendi. C'est du cœur que vient ma sanctification, la place pour mes cultes personnels, les cultes familiaux, l'évangélisation, les cultes de l'Église, si souvent en compétition avec les brunchs dominicaux, les fins de semaine au chalet, le repos après un samedi soir épuisant. C'est du cœur que ça vient. Dans un deuxième temps, la naissance de Jésus nous montre son humiliation dans le salut. Il est venu pour servir et non pour être servi. Une vie qui fait de la place à Jésus, c'est une vie de service, bien-aimés. Puissions-nous, dans la grâce du Seigneur, vivre cette consécration qui fait que la vie chrétienne, la vie d'Église, ce n'est pas uniquement un à-côté, ce n'est pas uniquement un ajout à mes activités. Ah, j'ai une profession, j'ai une famille, je suis... Ah, j'ai une religion aussi. Non, ce n'est pas un ajout à mes activités professionnelles ou sociales, mais... C'est le carburant de ma vie. Je carbure à la foi et je carbure au service de ce Dieu qui en est bien digne et de son corps qu'est l'Église. Puisse Jésus être formé en nous, et ça implique une certaine dose de sacrifice ou de ce qu'on appelle des sacrifices. Et cette réalité est symbolisée par Marie dans l'étable. Après un voyage, vous savez, on ne le réalise pas toujours, mais c'est un voyage de 120 km. Hein, nous, en auto, dans nos sièges bien rembourrés, il n'y a rien là, mais vous savez, en dos d'âne, non, on repassera. Hein? Il y a 3-4 dos d'âne sur la rue quand on descend, dit Anima, puis ça nous fatigue sur la rue. Là. Imagine que vous passez 120 km à dos d'âne et que vous êtes enceinte. Enfin, j'ai jamais été enceinte, mais je présume que ça ne doit pas nécessairement être facile. 120 km à cette statie de sa grossesse, et c'était certainement pas un endroit agréable pour passer la nuit, et encore bien moins pour accoucher. Et tout cela faisait partie de ce que signifiait pour Marie obéir à la promesse de Dieu, son engagement pour Dieu. Luc 1,38, « Je suis la servante du Seigneur. » Qu'il me soit fait, selon sa parole. Quelque chose, hein? C'est des paroles qu'on doit dire aussi. L'un des grands classiques de Noël va comme suit, aux nuits de paix, sainte nuit. Dans le ciel, l'astre luit, vous le connaissez. Dans les champs, tout repose en paix. Deuxième strophe, aux nuits d'amour, sainte nuit. Dans l'étable, aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Il repose sur ses langes, son Jésus ravissant. On est tous d'accord que c'est une très belle poésie. C'est un très beau texte. Sauf que la réalité n'était pas aussi bucolique que cela. Il y avait du bruit dans l'étable. Il y avait du sang sur le sol de l'étable. Une femme qui accouchait. Dans la ville de David, dans les rues avoisinantes du caravansérail, on pouvait entendre des cris d'une femme en train d'accoucher. Une femme en douleur, les yeux pleins de larmes, qui n'avait pas une mère à ses côtés pour l'accompagner dans ce premier accouchement-là. Il n'y avait pas de personnel infirmier, il n'y avait pas d'épidurale pour amoindrir la douleur. Comme obstétrique, vous savez, ça ne pouvait pas être plus minimal. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, selon ta parole. Puis cette phrase brève et toute simple, mais combien engageante, définir notre consécration. Je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait, selon ta parole. Quel roi servons-nous? Christ ou César Auguste? Joyeux Noël. Amen. Notre Père, notre Dieu, quelle merveille que cette misérable mangeoire, mais porteuse d'un si grand sauveur, quelle merveille que des vases de terre comme nous, des pécheurs comme nous, puissent être devenus des temples du Saint-Esprit. Alléluia. La rédemption nous transcende tellement, ô Dieu, dépasse tellement notre entendement. On ne peut que s'émerveiller, fléchir le genou, te louer et te rendre grâce. Et en effet, Seigneur, nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Qu'il nous soit fait selon ta parole. En Christ Jésus. Amen.